RFI.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'eau, c'est la vie, or nous vivons à crédit. Selon la Commission mondiale de l'économie sur l'eau, nous avons franchi les limites planétaires de cette ressource vitale et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la demande en eau pourrait dépasser l'offre du cycle naturel d'ici la fin de cette décennie. En cause, la mauvaise gestion humaine de cette ressource que nous polluons sans réflexion. Et pour illustrer cette mauvaise gestion, nous vous emmenons dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion, où la rivière des Marsouins, une des plus importantes de l'île, subit de multiples pressions. Heureusement, les scientifiques travaillent sur des solutions innovantes et c'est ce dont nous allons parler avec notre invité.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Patrick Lachassagne.
Bonjour Anne-Cécile Bras.
Vous êtes hydrogéologue et directeur de recherche à l'IRD. Vous êtes en ligne avec nous depuis Montpellier, dans le sud de la France, car vous dirigez Hydrosciences Montpellier, qui étudie et prévoit justement les impacts du climat et des activités humaines sur le cycle de l'eau. Alors, rapidement, c'est un centre de recherche important et pluridisciplinaire ?
Oui, en effet, à Montpellier, nous avons la plus importante communauté française scientifique dans le domaine de l'eau, qui est regroupé autour d'un centre UNESCO international de niveau 2, le centre UNESCO Issy Reward. C'est donc environ 500 chercheurs dans le domaine de l'eau. Et nous-mêmes, nous sommes sur le bâtiment Hydropolis. Et ce bâtiment Hydropolis accueille aussi un pôle de compétitivité qui s'appelle Aquavallée et qui a pour objectif de faire le lien finalement entre le monde de la recherche et celui des applications, celui des entreprises.
Alors commençons par faire un point sur l'état des ressources en eau douce au niveau mondial avec vous, Patrick Lachassagne. Tout d'abord, contrairement à ce que nous pourrions penser, il y a finalement très peu d'eau douce disponible sur cette planète.
Oui, alors on le voit bien, nous, à Montpellier, on est au bord de la mer, ou ceux qui sont auprès de l'océan. Sur Terre, 97% de l'eau, c'est des eaux salées, en fait, hein, et qui sont donc très difficiles à consommer directement. L'eau douce, c'est les 2,5% qui restent. Et là encore, il y a 70% de cette eau douce, on s'en rend pas compte tous les jours, mais qui est stockée sous forme de glace, principalement en Antarctique, hein, sur le continent antarctique, sur le Groenland, et puis après quelques petits bouts par-ci par-là dans les montagnes.
Alors que nous avons beaucoup de besoins, nous les humains, d'abord, on va parler des humains, même si après on expliquera qu'évidemment, il n'y a pas que les humains. Et donc, les humains utilisent beaucoup d'eau pour essentiellement l'eau potable. Hein, nous en dépendons quotidiennement. Sans eau, nous mourons. Mais aussi l'agriculture, l'industrie.
Oui, le premier usage de l'eau dans le monde, c'est de l'eau qu'on mange, en fait, hein, puisque c'est pour la production agricole, principalement pour l'irrigation et puis un petit peu pour abreuver le bétail. Ensuite, le deuxième usage, c'est l'eau potable, avec l'eau que l'on boit, l'eau pour notre hygiène, la cuisson des aliments, etc. Et puis, l'industrie vient ailleurs, en fait. Et finalement, si on revient à la ressource en eau, dans les 1% d'eau douce non glacée sur Terre, là encore, il y en a 99% qui sont des eaux souterraines et seulement 1% ou un peu plus d'1% qui sont des eaux qu'on voit en surface. Donc la plupart de la ressource en eau qu'on utilise, elle est cachée sous nos pieds.
Et oui, c'est important quand même de dresser ce panorama parce que souvent nous avons l'impression que l'eau disponible est celle qui est en surface et finalement non, l'essentiel est sous nos pieds.
Oui, tout à fait. Et le deuxième élément, hein, finalement, qu'elle soit sous nos pieds ou dans des cours d'eau en surface, c'est que cette ressource, elle est très inégalement répartie sur Terre. Alors, pour deux raisons principales, en fait. La première raison, elle tient aux caractéristiques physiques des différentes régions. On comprend bien que selon le climat, on a plus ou moins d'eau. Selon la topographie des lieux, il y a des endroits où l'eau a tendance à s'accumuler, où s'écouler vers et on en a pas mal, et puis d'autres, on n'en a pas du tout. Et puis aussi, selon la nature du sol et surtout du sous-sol, si on revient à ces eaux souterraines, on a des roches qui stockent beaucoup d'eau et puis d'autres qui en stockent très peu. Donc le premier élément, ce sont ces conditions physiques. Et puis après, il y a un deuxième élément d'inégale répartition, c'est les besoins en eau, puisqu'on sait qu'il y a certains endroits, mais par exemple des mégapoles, les rivages, qui sont très occupés par les populations, et donc où les besoins en eau sont très élevés, et où cette eau, elle n'est pas forcément toujours présente. Et puis à l'inverse, il peut y avoir d'autres régions du monde où il y a beaucoup d'eau, et puis il y a très peu d'usagers de l'eau. Et comme l'eau, ça se transporte très mal, c'est très lourd, ben ça génère ces très fortes irrégularités, cette très forte inégalité de répartition de l'eau et de sa disponibilité sur Terre.
Et là, nous n'avons parlé pour l'instant que des usages des humains, mais évidemment que tous les non-humains et tous les écosystèmes qui nous entourent et dont nous faisons partie ont énormément besoin d'eau aussi.
Et oui, et ça, effectivement, c'est un point sur lequel on fait toujours une petite erreur, c'est qu'on parle des besoins en eau pour l'homme. C'est très anthropocentré, mais effectivement, les écosystèmes, hein, qui eux n'ont pas le pouvoir de manifester, ou alors ils ne le font pas de manière directe, ont aussi besoin d'eau, que ce soit dans les rivières, dans les lacs. Certaines plantes prélèvent de l'eau dans le sol ou dans le sous-sol pour leur métabolisme. Donc, quand l'homme accapare l'eau, il faut qu'il garde une part aussi pour ces différents usages de l'eau par le reste du monde vivant qui est non humain.
Alors, je le disais en introduction de l'émission, pour la première fois durant cette décennie, ce serait une nouvelle limite planétaire que nous pourrions franchir, la demande en eau pourrait dépasser l'offre du cycle naturel. Vous confirmez cette information ?
Bon, alors, je n'ai pas les éléments qui leur ont permis de faire ce calcul-là. Parce que ça me paraît quand même un petit peu exagéré, en fait.
C'est un rapport de la Commission mondiale de l'économie sur l'eau, mais...
Oui, mais j'ai peur que ce soit un tout petit peu éloigné des réalités physiques.
Ah ben tant mieux, ça serait une bonne nouvelle.
Voilà, j'espère. Mais en tout cas, je pense que quoi qu'il en soit, et quelle que soit la véracité exacte des chiffres, l'élément clé, c'est que de plus en plus de populations mondiales souffrent de manque d'eau dans le sens où les ressources en eau disponibles ou mises à leur disposition dans les régions où elles vivent ne sont pas toujours suffisants pour satisfaire leurs besoins, en fait.
Oui, parce que nous avons beaucoup parlé de la quantité, mais il y a aussi la qualité de l'eau.
Oui, c'est ça. C'est que, certes, il y a la quantité, mais par nos activités humaines, hein, qu'elles soient en premier lieu hein, de nos rejets urbains ou liés à nos activités du quotidien, on peut souiller la qualité de cette eau. En Europe, il y a 20 ou 30 ans, hein, pour ceux qui sont un peu âgés comme moi, vous vous souvenez peut-être que la qualité des eaux des rivières était vraiment dégradée. Hein, il y avait de la mousse sur certaines rivières, etc. Et on a su, grâce à des plans, la mise en place des agences de l'eau, etc., résorber la qualité de ces eaux de surface. Aujourd'hui, on fait le constat que dans beaucoup de pays en voie de développement, ben, l'effort n'a pas encore pu être mis sur ce traitement des eaux usées et on se retrouve en aval des zones de concentration humaine, en aval des grandes villes, en aval des villes, en aval des zones artisanales ou industrielles avec des eaux de mauvaise qualité. Bon, on peut espérer que ces eaux de surface, d'ici 10, 15, 20 ans, pourront être traitées. Mais ce qui est un petit peu une bombe à retardement, ce sont plutôt les eaux souterraines qui, certes, sont mieux protégées que les eaux de surface, mais n'en restent pas moins vulnérables, surtout à moyen ou long terme, aux différentes contaminations qui viennent de la surface, qu'elles soient urbaines ou aussi agricoles, hein, parce que l'agriculture, ça couvre de grandes surfaces. Et quand on a des eaux souterraines contaminées, compte tenu du fait qu'elles circulent lentement dans le sous-sol, ce n'est pas quelques années pour revenir à un bon état de qualité, mais c'est souvent quelques décennies, voire plusieurs siècles. Donc voilà, il faut s'en préoccuper et je dirais pas seulement dans les pays en voie de développement, mais aussi chez nous, puisqu'on a vu au cours des dernières années, décennies, la qualité des eaux souterraines aussi se dégrader.
Alors nous allons quand même rester un petit peu en surface avec un exemple. Je vous propose de partir dans l'océan Indien sur l'île de la Réunion.
On est à la Réunion, beaucoup d'inondations, des records mondiaux aussi de précipitations. On est face aussi à de nombreux risques et c'est vrai que l'inondation, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être sujettes à ça. Donc notre but avec cette formation, c'est que la population puisse connaître les bons gestes, puisse savoir se déplacer dans la rivière et porter assistance à une personne en danger avec ou sans matériel de sécurité.
C'est un extrait d'un reportage de nos confrères sur des stages organisés pour former les professionnels et les citoyens au sauvetage en rivière, notamment sur la rivière des Marsouins qui traverse la ville de Saint-Benoît avant de se jeter dans l'océan Indien. Les populations de la ville sont régulièrement touchées par les crues de plus en plus violentes et imprévisibles. Nous vous proposons aujourd'hui de remonter le fil de cette rivière, une des plus importantes de l'île, qui concentre une faune et une flore exceptionnelles, mais qui se trouve sous pression des différentes activités hydrauliques, agricoles, industrielles et de loisirs en eau vive qui sont en pleine expansion. Samuel Turpin a rendez-vous avec Bernard Namparella, ingénieur hydrobiologiste et deux de ses collègues à l'embouchure de la rivière des Marsouins.
Ici, on est à l'embouchure de la rivière des Marsouins. Il y a un delta alluvionnaire qui forme un plan d'eau naturel. Ce plan d'eau, elle est morphogenèse, hein, c'est-à-dire elle est vivante, elle bouge en fonction de la fréquence et l'intensité des crues.
Et c'est ici que commence la vie de la rivière.
La vie commence ici parce qu'on a un phénomène particulier dans la faune aquatique des eaux douces de la Réunion. Comme c'est un volcan qui s'est sorti de l'océan, la vie donc, est venue de par la mer, comme la végétation arrivée par le vent ou par les graines dans les plumes des oiseaux.
Ici, c'est une grève, hein. Ça veut dire la rencontre de deux eaux, mais aussi la rencontre des espèces.
Tout à fait. Donc, grâce à cette apparition de plans d'eau saumâtre, on retrouvera 26 espèces de poissons et des 8 espèces de crustacés de la Réunion. Ce sont des espèces migratrices amphialines qui nécessitent une phage en eau douce et en eau de mer. Et ici aussi, comme tu peux voir, on a les plus grandes pêcheries du Bichic. Tu vois, par exemple, là, les pêcheurs en train de...
Ah, on voit des personnes là-bas qui sont au bord de la rivière, sur les rochers. Ils sont en train de creuser des canaux.
Tout à fait. Donc, des canaux spécifiquement pour la pêche des Bichic. Il y a un canal de reproduction qu'on n'a pas le droit de pêcher, donc dans l'ensemble du barrage. Et les Bichic, de par la force, les courants, ils vont entrer dans les nasses, ce qu'on appelle bourre, fabriquées à partir de nervures de cocotiers. Et on pêche ça le dernier quartier de lune jusqu'à la nouvelle lune. Le Bichic, c'est un petit alvin du Cabo Boucheron, espèce emblématique de la Réunion, donc on l'appelle aussi le caviar pays. Donc c'est un plat qu'on pourra avoir dans son assiette frais, pêché, de par la nouvelle réglementation de pêche, seulement entre septembre et février, pour plus de 100 € le kilo. Hein.
Vous voyez, ah oui, là, c'est onéreux.
Oui. Ah oui, 100 € le kilo. Dans les années 80, c'était 20 francs. Hein. Donc c'était à peine 7 €, hein. Tellement il y en avait, on faisait sécher sur les toits des maisons, hein, donc comme les maisons derrière là. Des fois on donnait, on ne savait pas quoi faire. C'est vrai, la population a quasiment triplé en 40 ans, mais ceci n'explique pas forcément le prix. Pourquoi c'est cher? C'est parce que la pression de pêche a diminué le renouvellement des populations. Le braconnage est très prégnant. On assiste à des techniques destructeurs, hein, comme l'eau de Javel, les D6, la chaux, etc. Après, c'est aussi les pollutions. La Réunion est en retard en matière d'assainissement d'eau usée. Donc avant, beaucoup d'eau usée était, de part même les usines ou les habitations, étaient relâchées dans la nature. Les intrants chimiques ont beaucoup dégradé des cours d'eau. Les barrages aussi n'ont pas eu de débit minimum biologique pour permettre les poissons de remonter ou de s'installer tout simplement dans les zones.
Le Bichic, on l'aime dans notre assiette, mais c'est surtout très important dans la chaîne alimentaire.
Tout à fait. Voilà, on a un intérêt culinaire très important, très fort à La Réunion, mais aussi il est très important dans la construction de la chaîne alimentaire des 26 espèces de poissons et des 8 espèces de crustacés de La Réunion, indigènes, j'entends.
Alors, la rivière des Marsouins, c'est le deuxième cours d'eau le plus important de l'île.
C'est la deuxième plus grande rivière après la rivière du Mât. Il y a 13 rivières pérennes, hein, qui coulent toute l'année sur la Réunion. Les 8 plus conséquentes sont dans l'est, dans la partie située au vent, donc au niveau des Alizés, la partie la plus arrosée de la Réunion.
C'est une rivière qui aujourd'hui, comme le Bichic, sous pression.
Elle est sous pression de par les usages de l'eau et les aménagements qui se développent. Si on part de l'amont, du haut vers l'aval, la première pression, c'est les deux barrages hydroélectriques Takamaka 1 et Takamaka 2. Après, on a un peu plus bas les activités agricoles, tout simplement les activités économiques, industrielles.
Il y a des prises d'eau pour l'industrie.
Il y a des prises d'eau pour l'industrie et pour la consommation d'eau potable.
Et puis, c'est une rivière aussi qui comporte beaucoup de lieux de loisirs, de lieux récréatifs, avec notamment le développement des sports d'eau vive.
Alors, la pression liée aux activités d'eau vive, hein, rafting, canyoning, etc., elle est plus liée aux différents aménagements pour maintenir cette activité-là. Bon, par exemple, les personnes qui font du rafting, ils ont besoin d'avoir des couloirs d'eau vive dégagés. Pour ça, ils vont déplacer des blocs et donc fragiliser des frayats de poissons, etc. Ou des piétinements. Aujourd'hui, les structures qui se donnent aux activités de canyoning ou de rafting font plus attention, ils ont une meilleure connaissance des fragilités de ces cours d'eau-là. C'est bien encadré, ils ne peuvent pas déplacer un bloc sans demander une autorisation à la DEAL pour faire.
Saint-Benoît, la ville de Saint-Benoît où nous sommes, là, est-ce que c'est une partie submersible ?
Ici, sur l'embouchure à Pâle, les houles australes intenses ou les tsunamis, on n'a pas vraiment de risque d'immersion marine. Par contre, vous voyez en rive gauche là, un endiguement pour canaliser l'écoulement de la rivière des Marsouins.
Le risque majeur, il ne vient pas forcément de la mer, donc de l'extérieur, mais plutôt de l'intérieur.
Tout à fait. Le risque majeur, c'est plutôt la rivière elle-même. La maternité qui n'existe plus, hein, qui était en face de l'hôpital de Saint-Benoît, a été justement inondée plusieurs fois dans les années 80.
Avec les effets du dérèglement climatique aujourd'hui, est-ce que le risque est plus important ?
Tout à fait.
Avec les fortes pluies par exemple. Hein.
Ici, avec le réchauffement climatique et aussi l'urbanisation galopante, donc c'est-à-dire l'artificialisation des sols, et aussi la topographie montagneuse avec un écoulement très rapide de l'eau, tous ces facteurs fait qu'on a de plus en plus de risques de crues, d'inondations et difficultés d'évacuation de l'eau pluviale.
D'ailleurs, on va aller voir un exemple qui se situe assez près d'ici. C'est des populations qui sont très régulièrement isolées à cause des grandes crues.
Oui, c'est ça. Ça se situe sur l'îlet de Coco, l'îlet d'Anglas, vers Bracanot, là-bas. Ces gens-là habitent là depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, ils craignent à leur bien et leur vie parce que les crues sont plus violentes qu'il y a 40 ans ou 100 ans.
On y va.
On y va.
La ligne dit à moi satiré, à moi moins l'assise de soupir de brune, d'ici mi entend la vieille plairée. Hier soir non plus où t'es pas là, et mi avoue que moi t'es triste, moi t'es comme tant que ce maigre en bois, comme un sien sens la perte la pisse. T'es la ligne, fais dire à moi ça ou les. Côté la case d'un fond, la ravine crapaud, ils sentent la pluie pas loin tomber. Assoir de bois, les mouillés, n'a point non plus pétrole pour mettre dans la lampe. Et comme il t'y sert, les gagne pas travailler, l'idée à moi, il y a envie d'habiter, c'est son matin. Qui sert la besoin à tuer, pour lui connaître la marée. Farabla pour Rodaou, pour lui fait son calendrier. Là où qu'il t'y va terre, la besoin planter, à moins de sous-pieds prune, moi la paix à passe minuit, la pas loin sonner. Côté la ligne, mais assez camoufatué. Côté la ligne, y a tes mystères bondiers. Côté la ligne, des mecs qui savent éclairer mon sentier. Aussi le seul limia que la commune, l'état, la science, y qu'un y pas fait payer. Côté la ligne, dis à moi où ça t'il est. Côté la ligne, la vieille vient arrête plairé. Se manquer a aussi tête bien ou les amoureuses. Et mon nid dit l'amour qu'on bébête l'argent, qu'on mettre F4 feuille et montre les yeux.
On est vraiment sur les hauts là, de Saint-Benoît.
Oui, on est sur la partie haute de la ville. Hein.
Alors, on est sur un joli sentier ombragé.
Un joli sentier avec des aires de pique-nique parce que c'est un coin très réputé pour les pique-niques dominicaux et également la pêche et les activités de sport de vive.
À gauche, là, on a une
bondieuserie ici.
Un petit lieu de culte. Hein, avec
ici, d'ailleurs, où il y a des bouquets de fleurs qui sont déposés sur le petit hôtel. Partout, on ira à La Réunion dans le milieu naturel. Vous verrez des petites bondieuseries comme ça sur les sentiers.
Bonjour.
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 Donc là, on voit encore des gens en train d'entretenir le sentier qui mène jusqu'à l'aire de pique-nique de Baleine. Voilà, là, on voit les traces, les cicatrices laissées par les derniers crues cycloniques de Bellal, là, au mois de février.
Ouais, et ça fait des saignées. Hein.
Ah oui, ça fait des saignées. Bah, en fait, les rivières de La Réunion, c'est des rivières torrentielles avec des crues morphogenèses. C'est-à-dire des crues qui vont divaguer en fonction de la puissance et de la l'occurrence.
Ouais, en fait, l'eau, elle prend le chemin qu'elle veut.
Le chemin le plus facile pour elle. Et donc, elle va déposer des alluvions et donner naissance à des îlettes, à des terrasses alluviales qui donnent naissance ici à Bethléem avec ce verger de Litchi ou le village d'Ilet Coco d'Adanglas qui est juste en bas ici là.
Attention, on la marche.
Là, on est sur la petite chapelle qui a été construite par la femme du gouverneur Hubert de Lille. À chaque endroit dans les périodes coloniales, là où il y avait les ouvriers agricoles, il allait avoir aussi la petite chapelle pour la prière dominicale.
Très bien conservée.
Oui. Très bien conservée. Voilà. Donc voilà, donc là on a une très belle vue là, sur l'îlette Coco, l'îlette d'Anglas, avec ces fameux vergers laitiers de Bracanote. Les laitiers sont nourris par l'eau permanente de la nappe de la rivière des Marsons, donc ils bénéficient d'une condition hydrique optimale. C'est le berceau même de naissance des laitiers à La Réunion. C'est laitiers ramenés par le gouverneur Hubert de Lille. Voilà.
Là, on surplombe le site Îlet de Coco. C'est un îlot qui se trouve au centre de deux bras de la rivière et qui n'est accessible de la berge que par des ponts.
Tout à fait. L'îlet de Coco est un petit village d'agriculteurs avec quelques restaurants qui existe depuis plus de 100 ans. Hein. Donc, c'est un petit village de gens qui ont vu plusieurs crues.
Et qui les ont subies.
Et qui les ont subies et sans réellement s'inquiéter jusqu'à maintenant. Et depuis 2-3 ans, les gens craignent pour leur vie, craignent pour leur bien.
À plusieurs reprises, ils se sont trouvés isolés.
Donc, il y a dû y avoir des travaux d'endiguement qui a permis de sécuriser l'îlet de Coco et l'îlet d'Anglas aujourd'hui.
Et si tu nous amènes ici, c'est pas non plus que pour les bondieuseries ou les bambouseries ou l'îlet de Coco, c'est parce qu'on va rejoindre un collègue.
Oui, bon, on va rejoindre un collègue aussi qui est très passionné par les rivières et la faune qui s'y trouve cette rivière, Nicolas Huette. Nicolas ! Attention, ça glisse là.
Bonjour.
Bonjour.
Nicolas Huette, photographe naturaliste, passionné par la biodiversité à La Réunion et ailleurs.
Nicolas, vous faites de la prise de vue ?
C'est beaucoup de prise de vue. L'idée, c'est de trouver des espèces assez uniques, mais ça peut aussi être des comportements. Donc une espèce qui va aller chasser une autre espèce, etc. L'idée, c'est vraiment de laisser la nature nous conter son histoire. Et à travers la photo, moi, c'est ce que j'essaie en tout cas de retranscrire. Les rivières, et notamment ici à la rivière des Marsouins, ce sont des milieux qui sont souvent peu connus, peu prospectés. On va voir des baigneurs, souvent, mais on va voir un peu moins souvent des gens qui vont mettre un masque, un tuba, parce que c'est souvent l'idée que en mer, il y a plein de choses, et en rivière, il n'y a rien.
Qu'est-ce qu'on a comme espèce très spécifique de La Réunion ?
Là, par exemple, ce que j'ai vu un petit peu plus tôt, c'est qu'il y avait du cabot boucheronde. Donc le cabot boucheronde, c'est un poisson. On dit benthique. Benthique, ça veut dire vraiment qu'il vit sur le fond. On va le voir sur les roches, etc. Il ne va pas nager en pleine eau ou en surface, vraiment sur le fond. C'est le parent à La Réunion de ce qu'on appelle le bichic qui se développe en mer, qui va remonter en rivière.
Bichic, c'est ce qu'on a vu avec Bernard à l'embouchure.
C'est ça, voilà. Donc, dans les rivières, on va dire que globalement, c'est des espèces qu'on retrouve dans les autres îles. Parce que vu que c'est une île volcanique et sortie des océans, etc., toutes les colonisations naturelles se sont faites du coup par la mer. Et du coup, c'est souvent des espèces qu'on va retrouver aussi ailleurs. C'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont quand même assez atypiques. Par exemple, l'écrevisse pays, ça appartient au genre Macrobrachium. C'est quand même une espèce considérée en danger critique d'extinction à La Réunion.
Ah, elle est là. Regarde.
Qu'est-ce que tu as remarqué là, Bernard ?
La loge des sables. Elle était dans un petit trou là maintenant. Elle est juste là, tu la vois là ?
Ouais, elle est bien camouflée.
Le gros galet là, et est dans le trou.
Je la vois.
Voilà. Elle est partie.
Elle vient juste de partir.
Donc elle était bien camouflée, mais elle a compris qu'on l'a vue. Alors, la loge des sables, c'est une espèce qui est assez active, qui est assez vivante, qui a la particularité de se cacher sous le sable pour passer inaperçue.
Elle s'enterre.
Elle s'enterre. Donc à la fois, c'est une protection, mais c'est aussi une méthode pour,
de chasse.
Pour chasser éventuellement. C'est une espèce qui est plutôt prédatrice. Et elle n'a pas la particularité de pouvoir adhérer à des supports comme le fait le gobie. Donc, dès qu'il y a un cassé trop important, une cascade ou un barrage, elle va pas pouvoir remonter. Donc ça la limite, on va dire, à ce qu'on appelle la partie inférieure des cours d'eau.
Est-ce que les espèces de poissons que tu observes sont en danger par les espèces invasives ?
C'est un sujet très très technique. Déjà, il faut dissocier espèces invasives animales et espèces invasives végétales. Donc une espèce invasive végétale dans un cours d'eau, ça va modifier la quantité d'oxygène, ça va modifier le type d'habitat, ça va modifier la circulation du courant, etc.
Le substrat de nourriture peut-être aussi ?
Parfois, ça peut être positif. Hein. On va avoir justement peut-être un substrat un peu plus riche et des cachettes plus nombreuses. Mais parfois, ça peut être aussi très négatif. Et de l'autre côté, on a les espèces exotiques envahissantes animales. Et là, pour le coup, ça va être plutôt soit de la compétition, parce que l'espèce envahissante, elle va manger la même chose, sauf que bah, peut-être elle va se reproduire plus vite, manger plus ou ce genre de choses. Donc, ça peut être la prédation. Ça peut être aussi l'apport peut-être de maladies ou de parasites, par exemple. Mais le plus souvent, quand on dit une espèce exotique envahissante, il y a exotique et il y a envahissante. Et là, c'est toute la nuance. On peut considérer qu'une espèce commence à devenir envahissante dès le moment où elle va impacter le milieu suffisamment pour vraiment modifier en tout cas le milieu ou la biodiversité présente dans un milieu. Alors qu'une espèce exotique, on est à un stade où on n'a pas forcément suffisamment de données pour vraiment mesurer les dégâts, ou alors on considère que les dégâts ne sont pas ravageurs comme on pourrait l'imaginer.
Toi qui suis ces espèces et qui les documente, est-ce que tu as déjà remarqué des signes d'adaptation de certaines espèces ?
Alors, c'est vrai que parfois, on peut observer des espèces dans des milieux où on ne s'attend pas à les observer ou de façon anecdotique. Mais pour moi, on manque de connaissances. Il faudrait plus d'observations, etc. pour comprendre pourquoi cette espèce elle est dans un endroit où on ne l'imagine pas, en fait. Est-ce que c'est une adaptation ou est-ce que c'est parce que c'est la première fois que je suis venu ici ?
Où elle a été transportée ici, cette
espèce. Où elle a été transportée ici. C'est tout le questionnement et c'est toute la difficulté de savoir si une espèce s'adapte vraiment à une situation ou pas.
Mais par contre, il y a un paramètre dans le comportement des espèces, on appelle ça l'histoire de trait de vie. C'est la mémoire génétique. Une espèce qui se sent en danger, j'entends par là les bichiques, peuvent garder cette information-là afin que les futurs alevins ne viennent pas dans nos cours d'eau.
Mémoire transgénérationnelle.
Transgénérationnelle qui explique que quand on pêche trop ces bichiques-là, et donne l'information, ils peuvent venir ici, donc d'aller ailleurs, là où il y a la moins de pression.
Nicolas, est-ce que le caractère mouvant des rivières, notamment à cause des fortes crues, perturbe les lieux de reproduction ?
Si on prend l'exemple de l'écrevisse pays dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi des espèces qui vont aimer un certain type de milieu. Ces milieux-là, ils sont complètement modifiés par les crues, à plus ou moins grande échelle en fonction des milieux. Et moi, c'est un constat en tout cas que j'ai pu faire, qu'après de fortes crues, je suis retourné sur un endroit où j'ai toujours vu de l'écrevisse et il n'y en avait plus du tout. Un autre exemple, on a une petite espèce de mollusque qui est présente à La Réunion sur a priori une seule, peut-être deux embouchures, qui vit sur les feuilles pendantes qui rentrent dans l'eau des plantes, des cannes fourragères. Donc, après une crue, s'il n'y a plus les plantes, potentiellement c'est l'échec pour l'espèce. Et donc, par modification de l'habitat, c'est même parfois les espèces, les individus eux-mêmes qui vont peut-être se délocaliser ailleurs, mais en tout cas qu'on n'observera plus.
Et modification de l'habitat, ça peut être des causes naturelles, ça peut être aussi l'effet de l'homme.
L'effet de l'homme, bah oui. On parlait tout à l'heure, par exemple, de la pollution, des barrages, etc. Bon, faire un barrage, rien que le fait de prendre des rochers pour faire son bassin, c'est déjà du dérangement qu'on va créer. On crée un mur, et bah, les larves ensuite qui veulent se rendre en mer ne pourront pas se rendre en mer parce qu'elles vont se retrouver bloquées. Elles ont très peu de temps pour rejoindre la mer. Donc si elles sont bloquées par un mur, c'est fini.
Je voudrais juste rajouter qu'un barrage, il peut avoir trois conséquences majeures. Une conséquence biologique, la montée de la dévalaison des espèces. La conséquence hydraulique, la continuité liquide, hein, donc pour que la vie puisse se maintenir. Et aussi la continuité sédimentaire, c'est-à-dire le transit des alluvions pour construire les fameux frières des poissons.
Et on va aller voir ça tout de suite.
Oui, on va monter un peu plus haut vers Boabiléo, Takamaka, pour voir justement la conséquence de ces barrages-là.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Ici, on commence à voir déjà les premiers ouvrages.
Oui, donc là, on arrive sur la plateforme de Takamaka où on voit devant nous là, la galerie drainante qui mène aux deux barrages hydroélectriques d'EDF. Voilà, le funiculaire est là.
Et les deux barrages sont assez proches.
Le premier date de 1968, le deuxième de 1987.
Le second a été conçu au-dessus du premier.
Oui, EDF, pour optimiser la force hydraulique, a voulu construire un second barrage à peu près 2 km plus haut que le premier. quasiment tout l'eau qui coule ici est captée pour être utilisée en énergie.
Toute l'eau est turbinée.
Toute l'eau est turbinée pour avoir le maximum d'énergie. L'alimentation de Laval est faite uniquement par les écoulements latéraux.
Là, donc les cascades qui se trouvent sur les flancs, flancs des montagnes.
Voilà. Mais il n'y a pas de débit réservé dans le barrage même. Globalement, ça produit à peu près 15 à 20% de l'énergie électrique de l'île.
Là, on est à environ à 800 mètres d'altitude.
Oui, à peu près ça.
Mais ça, c'est couvert. Hein. On n'a plus le même soleil qu'à l'embouchure.
La Réunion, c'est un peu cette particularité-là. C'est ce qu'on appelle les brises de terre, brises de mer. C'est que le matin, la terre se réchauffant plus vite que la mer, on aura une dépression qui entraînera les nuages vers l'intérieur, c'est-à-dire vers sur les terres. Et à l'inverse, le soir, la dépression va s'inverser, va être sur la mer parce que la mer va garder la chaleur plus longtemps et le vent va s'inverser et les nuages vont descendre de par la dépression en mer. Voilà. En face de nous, on a le premier cassé de la rivière de Marsouin.
Qu'est-ce qu'on appelle cassé ?
Un cassé, c'est une dépression naturelle, une rupture de pente par rapport
à une falaise. Ouais.
Falaise. On est comme dans un fer cheval, un amphithéâtre, avec des remparts hein, de plus de 70 mètres, voire 100 mètres de hauteur, et un promontoire, hein, un plateau qu'on appelle ici le plateau de Bebourg, qui a 2400 mètres.
Ça, c'est en arrière-plan, en avant-plan. Deux cônes au milieu de ce cirque, de ce fer à cheval. Et de part et d'autre de ces deux cônes, nous avons la rivière qui passe à gauche, qui passe à droite.
Le bras cabot là-bas, bras patient. La confluence de ces bras donne naissance à la rivière des Marsouins.
Bernard, vous nous disiez au début du reportage que c'est la façade est de l'île qui était la plus arrosée en termes de pluviométrie, moins sur la partie ouest, qui est la partie sous le vent. Il y a de gros travaux qui ont été opérés, qui ont duré 25 ans, pour faire ce qu'on appelle le basculement d'eau à La Réunion.
Oui, il faut avoir en tête que l'île a les alizés qui arrivent par l'est. Et ces alizés-là donc, amènent des nuages chargés en eau qui sont stoppés par le relief.
Comme on l'a juste devant nous, là.
Ils sont accrochés côté est par la montagne. Et la mer du nuage, elle les stagne à hauteur de 1400 mètres. C'est là où on aura le maximum de nuages chargés d'eau. C'est pourquoi on a fait le choix, ça a duré plus de 20 ans, je crois, de mémoire.
25 ans, ouais. Voilà. Ce chantier, il a été lancé au tout début des années 90 pour se terminer en 2014. C'est tout récent.
Tout à fait, c'est ça. Et le pari, à cette époque-là, c'était un besoin principalement agricole. En tout cas, c'est ce qui était vendu. Pour moi, il n'y avait pas que ça comme raison. Donc, pas seulement économique, il y avait aussi des besoins en matière d'urbanisation dans l'Ouest. Donc on a capté les eaux du cirque de Salazie, du cirque de Mafat, en passant par toutes les rivières qui s'y trouvaient. Donc une galerie fait une interconnexion pour ramener l'eau de l'Est vers l'Ouest. Aujourd'hui, ce qui est ironique, c'est que c'est les gens qui sont à l'Est qui se retrouvent soit avec des coupures d'eau, ou soit à irriguer leurs champs. Voilà, je trouve ça paradoxal. Au lieu de réparer les réseaux, parce qu'on a des réseaux vieillissants et on a beaucoup de fuites sur les réseaux, on a voulu prélever encore plus dans les cours d'eau, au détriment de la faune, de la vie dans les cours d'eau, et avec l'impact économique pour l'administré, pour le citoyen, qui n'est pas négligeable.
Le paysage est extraordinaire, hein, ça fait mal à la rétine. Quel spectacle, hein. C'est un enchaînement de cascades sur 400 mètres d'altitude à peu près. Voilà. Sur la roche, nous voyons une végétation très dense.
Ce qui caractérise ici cette végétation-là, c'est la qualité des espèces indigènes.
Pour en parler, on va rejoindre Henri.
Henri qui va nous raconter, nous présenter un peu plus les essences qu'on peut observer.
Henri, bonjour.
Oui, bonjour Henri.
Alors Henri Warraud, donc moi je travaille au Conservatoire Botanique National Mascarin et je suis également membre de la Société Réunionnaise d'études et de protection de l'environnement, qui est la plus vieille association de protection de l'environnement de La Réunion, depuis 1971, et une des plus vieilles de France aussi. Donc là, on est à la limite entre la moyenne altitude et la haute altitude, forêt tropicale humide, typique de l'est de l'île, hein, quand on monte un petit peu en altitude. Quand on arrive, quand on regarde au premier coup d'œil, on se dit, c'est la nature primaire, c'est préservé. Et d'autant plus quand on est néophyte.
C'est ce que je me suis dit en arrivant.
C'est ça. Mais quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit que là, tiens, il y a une tache un peu plus vert clair qui attire un peu l'œil. Raisin marron, espèce exotique envahissante, ça n'a rien à faire là. Ça gâche un peu le paysage. Et puis on voit une tache de plus en plus grande. Hop, là on voit une coulée carrément. On dit tiens, il y a eu un éboulement. Et qu'est-ce qui colonise ? Normalement, ça devrait être les espèces endémiques, et non, c'est l'exotique envahissante qui prend la place. Et de plus en plus, ces taches exotiques envahissantes prennent de l'ampleur.
Le paysage change même de couleur, il change d'apparence.
Le paysage change de couleur, change d'apparence. Vous voyez ces fougères arborescentes, il faut se dire qu'elles devaient être beaucoup plus présentes avant, et c'est surtout le palmiste rouge, qui en fait devait être partout. À Réunion, en fait, on dit palmiste pour les palmiers comestibles, dont on consomme le bourgeon terminal. Là, de l'autre côté de la montagne, il y a la plaine des palmistes. Vous avez la plaine des palmistes, il n'y a pas un seul palmiste. Voilà, il faut fouiller. Avant que l'homme intervienne, avant qu'il y ait du braconnage, avant les grands défrichements, l'espèce qui dominait, qui dépassait de la canopée, c'était le palmiste rouge.
Sur un milieu insulaire, hein, le principal problème des espèces, c'est évidemment les espèces exotiques envahissantes.
Alors, oui, dans les milieux insulaires océaniques, ce sont des îles archipels qui ont souffert de l'arrivée de l'homme, de son implantation. Mais aujourd'hui, dans ces milieux, la première menace, la première raison de l'érosion de la biodiversité, ce sont les espèces exotiques envahissantes. Et à La Réunion, la dernière révision de la liste rouge, établie par l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, fait apparaître qu'il y a plus de 40% de la flore indigène qui est menacée. C'est 10% de plus que la dernière liste rouge en 2010. Il faut bien se souvenir que le parc national est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Cette valeur paysagère, elle est là grâce à ce couvert forestier indigène, originel. Et si on est en train de le perdre avec ces exotiques qui gagnent du terrain, ben ça c'est catastrophique. On a déjà eu des alertes de l'UNESCO. Si ça continue, on perdra le label patrimoine mondial.
Voilà. C'est l'enjeu à venir.
C'est l'enjeu à venir et j'ai envie de dire, perdre le label, c'est une chose, mais c'est surtout perdre notre biodiversité.
Le label, il n'est pas une fin en soi, c'est un indicateur de l'effort qu'on fournit, aussi bien citoyen que pouvoir public, pour conserver ce bien dans le temps et pour les générations futures.
Un reportage de Samuel Turpin. Patrick Lachassagne, je rappelle que vous êtes hydrogéologue et directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Vous êtes en ligne avec nous depuis Montpellier, dans le sud de la France, car vous dirigez Hydrosciences Montpellier. Alors globalement, comment réagissez-vous à ce reportage ?
Ce reportage, il nous montre en grande partie les différentes facettes de l'eau, en fait. Puisqu'on a entendu parler de l'eau ressource, surtout aux ressources pour la production électrique sur le site de Takamaka. Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais on pourrait aussi parler de l'eau ressource telle qu'on l'utilise pour l'eau potable ou l'irrigation. On a entendu aussi parler de l'eau risque, puisque ce cours d'eau est sujet à des inondations. Donc, quand on habite au bord de l'eau, on a cette problématique des risques d'inondation. On a aussi entendu parler de la pêche aux alevins, donc de l'eau milieu de vie, et comment, par nos activités, on a vu le canyoning, la pêche, comment on peut générer des problématiques liées au monde vivant qui vit dans cette eau. Voilà, donc on a vu un petit peu différentes facettes de l'eau. Et ça nous amène à un point qui est important, c'est que quand on fait de la politique, au sens noble du terme, au sens de l'aménagement du territoire, l'aménagement d'une région pour les concitoyens, mais en prenant aussi en compte les écosystèmes, comme on le disait au début de cet entretien, l'eau est sûrement un moyen de concilier de manière efficace les différentes politiques. Parce que vous voyez que si... On réduit complètement le débit d'eau pour produire de l'électricité, on va avoir des problèmes avec l'eau milieu de vie en aval qui rend des services aux écosystèmes et puis aux gens qui vivent de la pêche des alevins, si on revient sur l'exemple de la rivière des Marsouins. Si on contamine par des rejets d'eau usée cette eau, on va là encore impacter l'eau milieu de vie et peut-être l'eau ressource si on s'en sert pour l'eau potable.
Oui, alors donc justement, les eaux usées, par exemple, c'est un véritable problème à l'échelle mondiale.
Oui, tout à fait, et c'est lié aux concentrations humaines.
Je crois que c'est 80% des eaux usées qui sont relâchées dans l'environnement sans aucun traitement, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Principalement dans les pays en voie de développement. et avec des conséquences fortes quand le milieu récepteur n'est pas bien capable de le recevoir. Hein. Vous voyez que si on rejette dans le Nil ou l'Amazon, ce n'est pas la même chose qu'on rejette dans un petit cours d'eau côtier. L'effet de dilution va être beaucoup moins important.
Alors, en cette période estivale, vous l'évoquiez, c'est intéressant de parler des conséquences du tourisme, parce que évidemment que les sports d'eau se développent, c'est vrai que c'est sympathique, plaisant, etc., mais ce n'est pas sans impact aussi, il faut faire attention.
Oui, ben on a vu des impacts assez subtils hein, sur l'exemple de la rivière des Marsouins, hein, où en voulant aménager des espaces de rafting qui paraissent être un sport par nature écologique, entre guillemets, on pouvait perturber l'écosystème. Hein, donc, il faut faire attention. Et puis, effectivement, hein, la concentration du tourisme qui peut augmenter les densités de population et les besoins en eau dans des régions littorales, par exemple, hein, à cette saison de l'année, peut créer des problèmes de surexploitation de la ressource, au moins pendant quelques périodes de l'année.
Alors, on entendait pour cette rivière qu'il y a de plus en plus de crues, notamment à cause des changements climatiques hein, qui bouleversent le cycle des pluies. Le changement climatique par rapport à la ressource en eau pose évidemment de nombreuses questions. Hein. On en parle beaucoup dans cette émission.
Oui, alors le changement climatique, dans l'absolu, les scientifiques montrent qu'il, ou les climatologues montrent qu'il devrait nous apporter plus d'eau. Des températures plus élevées font qu'il y a plus d'eau dans l'atmosphère.
Et parce donc, qu'il y a plus d'évaporation de l'océan, c'est ça en gros.
Et voilà, il y a plus d'évaporation, donc il devrait y avoir ce que l'on appelle une intensification du cycle de l'eau. Le problème, c'est qu'il y a deux enjeux ou deux problèmes derrière cela. C'est que certes, on intensifie le cycle de l'eau, mais là encore, ça se fait de manière inégale sur Terre. Il y a des régions dans lesquelles il va plus pleuvoir, et d'autres dans lesquelles, finalement, il va moins pleuvoir. Donc ça, on va générer de nouvelles formes d'inégalités.
Alors, où est-ce qu'il va plus pleuvoir et où est-ce qu'il va moins pleuvoir, en gros ?
Je dirais, si on reste très rapidement sur la France, ben le temps qu'on a ce mois de juillet, là, qui désole pas mal les gens du nord de la France, c'est un petit peu ce qui pourrait nous arriver dans le futur avec un nord de la France plus arrosé en moyenne et un sud de la France qui s'aridifie. Et on ne sait pas trop où passe la limite entre le sud et le nord. Après, si on revient sur l'aspect intensification, et en revenant par exemple en Afrique subsaharienne, vous savez sûrement, nos auditeurs se souviennent sûrement du fait que dans les années 1970 à 1990, on a eu une très grosse sécheresse dans cette région du monde qui a créé de gros problèmes sociaux. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est revenu à un niveau de précipitation, un niveau de pluie, qui est à peu près le même que celui d'avant les années 1970. Donc on pourrait se dire, ouf, je mets des guillemets, grâce au changement climatique, on revient vers des pluies abondantes dans cette région.
Mais je sens qu'il y a un mais qui arrive.
Et oui, vous l'avez bien senti, il y a un mais. Le mais, il tient à cette problématique d'intensification. C'est-à-dire qu'on a des précipitations plus fortes quand il pleut, et à l'inverse, des saisons de sèche qui peuvent durer plus longtemps. Et ça, si on le fait très simple, ça peut se traduire par le fait qu'il y ait plus d'inondations pendant la saison des pluies et, à l'inverse, des étiages, des périodes de sécheresse plus durables, plus prononcées en saison sèche. Et ainsi, on a vu par exemple à Niamey ou à N'Djamena, sur le Niger à Niamey par exemple, des affluents du Niger par exemple qui se remettent à couler en saison des pluies, alors qu'il coulait très peu il y a 15, 20, 30 ou 40 ans. Et ces affluents, ils conduisent à avoir une saison des inondations qui n'est plus la même au cours de l'année et qui devient même plus importante que la saison des inondations que l'on avait dans le passé.
Alors la bonne nouvelle, c'est que la recherche se mobilise dans le monde entier pour mieux gérer ses ressources en eau. Et vous avez notamment des bonnes nouvelles pour les nappes phréatiques. Vous disiez que c'était très important en Afrique subsaharienne. Il y a eu des avancées très importantes ces dernières années pour mieux connaître ces nappes et du coup savoir mieux les gérer dans le temps.
Oui. Alors vous faites référence au fait que une grande partie de l'Afrique, finalement, est constituée ce que nous, dans notre jargon, on appelle des roches plutoniques et métamorphiques, mais qui, dans le grand public, sont plutôt des roches qui ressemblent à du granit ou du schiste. Donc, une grande partie de l'Afrique est constituée de ces roches-là. Et jusqu'à il y a une quinzaine, vingtaine d'années, on pensait que l'eau souterraine dans ces roches-là, elle circulait par des failles, un peu comme la faille de San Andreas en Californie. Et on sait tous qu'une faille, c'est très difficile à localiser. Et que donc, par exemple, quand on voulait faire un forage d'eau, on pensait, il paraissait difficile de trouver l'endroit où trouver la faille. Et les travaux de recherche ont montré que ces roches-là, l'eau ne circule pas dans des failles, mais elle circule bien dans des fissures, dans des fractures, mais qui sont liées à ce que l'on appelle l'altération de la roche. C'est-à-dire que la roche exposée à la surface pendant des millions d'années, elle se fracture. Et ça nous permet d'identifier les secteurs où cette roche est altérée, donc fracturée, et donc faciliter l'implantation des forages d'eau, donc d'alimenter la population. Mais aussi et surtout, comme cette altération est assez généralisée à certaines régions, de bien pouvoir calculer quelle est la quantité d'eau qui recharge les nappes d'eau souterraines et pouvoir donc faire des prévisions fiables d'une ressource en eau exploitée de manière durable.
Et ça, c'est vraiment essentiel pour faire le lien avec les besoins des populations. Et c'est venu assez rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais c'est intéressant d'expliquer aux gens comment se passent les recherches. Vous vous êtes inspiré d'une nappe phréatique qui était en Inde, qui ressemblait à ces nappes phréatiques en Afrique.
C'est ça, oui. On a eu l'opportunité de monter un petit laboratoire de recherche en Inde, où les paysans indiens avaient réalisé de très, très nombreux forages. Et avec 900 forages sur un périmètre assez restreint, on a pu comprendre cette relation entre l'altération et la fracturation des roches. Et de proche en proche, sachant que ce sont les mêmes roches qu'on a en Inde, en Afrique, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, mais aussi en Amérique du Sud ou ailleurs, on peut transférer, je dirais un transfert sud-sud de savoir-faire grâce aux travaux de recherche qu'on a menés dans ces régions-là.
En conclusion, Patrick Lachassagne, finalement, avec la recherche, toutes les recherches qui sont en cours, on se dit qu'on va réussir à la gérer convenablement par rapport aux besoins, cette ressource en eau qui crée beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui.
Oui, alors je dirais, nous, on est chercheurs, on développe sans cesse de nouvelles approches, mais je dirais, grosso modo, on a les bons outils pour gérer la ressource en eau, c'est-à-dire les techniciens savent faire. Je crois qu'on travaille aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales et on a aussi des méthodes, des modèles de gouvernance de la ressource en eau qui, eux aussi, ont fait leurs preuves. Et je pense que, finalement, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut que les décideurs, les populations locales, etc., prennent conscience de cette problématique de l'eau et se saisissent des modalités de gouvernance qu'ils veulent mettre en place pour gérer cette ressource en eau de manière la plus durable possible, qu'elle serve au développement économique, au maintien pour autant des écosystèmes, donc de trouver le bon compromis entre eux et avec les techniciens pour bien gérer de manière durable ces ressources en eau.
Merci Patrick Lachassagne d'être intervenu dans C'est pas du vent.
C'était avec un grand plaisir. Bonne journée à tous.
Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à réagir à nos émissions sur les réseaux sociaux ou par mail, c'estpasduvent@rfi.fr, et à partager nos podcasts à partir de l'application Pure Radio. Prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.